Bonsoir, bienvenue dans Ouvrez les ailes, l'émission de portrait du mardi soir. Ce soir, je vous propose de rencontrer Élodie Font et d'écouter son dernier documentaire sonore intitulé « Coming in » ou encore « Comment je me suis acceptée ». Élodie est journaliste et femme de radio. On a pu entendre sa voix sur de nombreuses ondes, comme celle du Move ou de Nova. Aujourd'hui, elle fait partie de l'équipe de Boxon, qui est un média radio indépendant, fondé par Pascal Clark et Candice Marshall. Son credo, c'est mettre à l'aise ceux qui se dévoilent pour que ceux qui écoutent se sentent dans un cocon. Bonsoir Élodie.
Bonjour.
Bienvenue sur l'antenne de Canal Sud.
Merci de m'inviter.
Coming In est votre troisième documentaire. Vous aviez réalisé les deux précédents pour France Culture, un sur la préparation au mariage catholique pour l'émission Sur les docks, un autre sur les cicatrices pour l'émission Les pieds sur terre. Cette fois-ci, c'est vous-même le sujet. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer au jeu ?
Ça s'est fait d'une manière assez naturelle. Ça s'est fait parce que celui qui dirige Arte Radio, qui s'appelle Sylvain Gir, je l'ai rencontré un peu par hasard et en discutant avec lui, il m'a dit pourquoi tu parlerais pas du cheminement, de l'acceptation d'être homosexuel et en fait au début je me suis dit je vais trouver des gens, je vais les faire parler de leur homosexualité. Ça me semblait logique, ça me semblait être dans la lignée de ce que je fais en tant que journaliste. Et c'est lui, en fait, qui m'a dit « Mais non, mais moi, j'ai envie que tu écrives toi. » Et je me suis dit « Pourquoi pas ?» Je me suis lancée.
Alors, vous êtes lancée et nous allons maintenant nous lancer et préparer nos écoutilles pour écouter « Coming In ». C'est parti.
Élise, Maud, Laure, Aurélie, Amélie, Céline, Julie, Marie, Stéphanie. En tout, oui j'ai compté, il y en a eu 23.
T'es hyper masculine.
Enfin hello, t'as vu comment t'es habillée?
Tu fais du foot.
Il y a un moment, faut se rendre à l'évidence.
Mais elle est lesbienne elle, non?
Mais si t'es lesbienne, ça se voit.
T'es lesbienne. Réveille-toi, merde.
Mais tu respires pas la féminité quoi.
23 personnes différentes, toutes de sexe féminin, quasiment toutes sous l'emprise de l'alcool, persuadées que j'étais homo. S'appuyant sur leur guédar, leur radar à guet. Je m'appelle Élodie, j'ai 31 ans, je porte des chemises à carreaux, et à ce moment-là, nous sommes en 2005, je suis très très loin de faire le moindre lien entre mon sweat à capuche, un arc-en-ciel brodé sur le cœur et ma sexualité. J'ai même souvent très envie de hurler sur tous ces gens qui pensent tout savoir mieux que moi.
Oula goudou, la goudou, la goudou. Oula goudou, la goudou.
Je me souviens de la première fois où on m'a dit « Hello, tu le sais pas, mais t'es homo. » Comme si c'était une évidence. Comme si j'étais passée à côté de la réalité. C'était en préparant mon BAFA. J'ai cru l'espace de quelques mois que j'allais animer des centres aérés tous les étés. J'ai 17 ans. Elle s'appelait Anne. Elle était grande, assez imposante, les cheveux noirs, au carré. « Tu me chamboules », elle a dit. « Un jour, tu rencontreras ton identité sexuelle. » Elle parlait comme dans un livre. Un livre un peu obscur, puisque je n'ai rien compris. À l'époque, c'était surtout le chanteur Patrice qui m'intéressait.
You are with you, you are with you, ta-dam.
C'est pratique parce que depuis mes 9 ans et demi, très important le et demi à cet âge-là, j'ai écrit une trentaine de cahiers. J'écrivais au stylo plume. Je devrais m'y remettre. J'adorais l'odeur de l'effaceur. J'avais toujours des taches d'encre sur les doigts. Ça, c'est mon journal de la terminale. Il y a écrit en gros dessus, au feutre noir, « Ose devenir qui tu es ». Je le saurais si j'étais attirée par les filles. Ce serait forcément écrit dans un de ces journaux. C'est la première fois que je relis ces pages. Nous sommes le 15 juillet 2003 et je viens d'obtenir mon bac. Cher journal, mon interrogation est profonde. Je recherche toujours une protection parmi mes amis. Mais le plus surprenant, c'est lorsque mes sentiments grossissent envers quelqu'un, une fille qui m'est inconnue, une actrice, une fille dans la rue, n'importe qui. C'est curieux comme alors j'envie cette personne que je ne connaîtrai jamais. Généralement, j'y repense 3 ou 4 fois, et cela s'atténue. Il y a des fois où, franchement, je suis incompréhensible. Je sais qu'au moment où j'écrivais ces lignes, je pensais à cet instant. Je le sais parce que j'y pense encore régulièrement. Un dîner, chez mes grands-parents, à Rennes. J'avais 15 ans. Et il y a cette actrice, dans un téléfilm dont j'ai complètement oublié le nom, je saurais même pas la reconnaître. Un grand soleil, une prairie, cette fille dont les cheveux sont dorés illumine la scène. Et immédiatement, un impact dans ma poitrine. Puis, la nuit qui a suivi, les yeux grands ouverts, la difficulté à respirer, à se demander quel était ce sentiment naissant, vaguement gênant. Et comprendre, sans comprendre, qu'il allait falloir l'étouffer. Je ne me suis pas autorisée à le ressentir. Je ne me suis même pas autorisée à l'écrire. Pas une ligne de plus que ce que je viens de vous lire. Aucune trace de cette nuit-là. Et pourtant, je ne l'ai pas rêvée. Je suis certaine qu'elle a existé. C'était la première fois que c'était là. Diffus. L'impression qu'un sentiment s'était déplacé. Que quelque chose n'était pas au bon endroit.
Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas ?
Non. Je me sens pas très bien.
T'inquiète, ça va bien se passer.
Je sais pas, j'ai super mal au ventre, j'ai peut-être mes règles.
Fais-moi confiance.
Allô Mathilde ? Ça va ?
Ouais, et toi ?
Je sais pas trop.
T'as vu Florian ?
On a passé la nuit ensemble, ouais, mais j'ai pas dormi, quoi. Genre pas une seconde.
Mais parce que t'étais pas bien ?
Je sais pas. J'ai une question. Est-ce que c'est normal ? Alors je sais, tu vas me dire, y a rien de normal, mais... Est-ce que toi, quand tu passes la nuit avec un mec, genre la première fois, tu peux pas dormir parce que t'as la nausée ? J'ai dû écrire sur ce sujet, sur mon premier copain. Ça a quand même duré 1 an et demi, mes 17-18 ans. Il jouait de la guitare, m'avait enregistré sur CD, je me souviens, une reprise de Cabrel. Il me raccompagnait devant la porte du sous-sol de mes parents et on se roulait des pelles dans le noir. Je comptais les tours en trouvant ça beaucoup trop baveux pour moi. Et c'est un peu fou de le dire à haute voix, mais je sais pas si on a un jour fait l'amour. Je sais qu'on a essayé, très peu de fois. J'ai le souvenir de plusieurs ratages et je n'arrive pas à me rappeler si oui ou non, à un moment, on a fait l'amour. Après lui, il y a eu, je sais pas, 6 ou 7 mecs et je ne sais pas avec lequel j'ai fait l'amour pour la première fois. Je saurais même pas dire si j'ai déjà fait l'amour avec un mec. J'ai zappé ma première fois. Cher journal, ce mec, il m'attire. Mais pas spécialement physiquement. C'est assez étrange comme sensation. Dans mon journal, À aucun moment, je ne raconte une relation sexuelle. On a dormi ensemble samedi et je n'avais aucune envie d'aller plus loin. Aucune. Je ne sais pas ce que je dois faire. La seule sensation évidente, en me relisant, c'est l'absence d'amour. J'ai très peur de coucher avec. Ça va faire 8 mois, mais ça me bloque. Je ne ressens rien. Si un jour vous avez besoin d'une excuse pour ne pas coucher avec quelqu'un, vous m'appelez, hein, parce que j'avais du stock.
J'ai
mal à la tête.
J'ai
mal au ventre.
J'ai
mes règles.
J'ai
piscine, poney, une mycose.
La phobie des préservatifs.
Je
suis mal épilée.
Je
préfère faire du canoë.
Je
me suis bloqué la mâchoire.
Je
dors mal quand je suis pas chez moi. Me suis fait une tendinite au tennis de table. Peux pas rester, désolée. Je pensais que j'avais un problème physique qui m'empêchait de ressentir du plaisir. Je suis même allée chez le gynéco pour vérifier que j'avais pas les ovaires inversés. Ou un truc dans le genre qui expliquerait pourquoi je n'avais aucun désir physique. Le mec m'a souri. Il était vieux, c'est lui qui m'avait aidé à naître, paraît-il. Et comme si c'était une bonne nouvelle, il a rajouté
« Tout va bien, mademoiselle. »
J'étais presque déçue. Je voulais tellement être comme mes copines. Leur raconter que ça y est, moi aussi, j'en étais. Que ça y est, moi aussi, j'avais craqué sur tel mec, que c'était génial au lit, que vraiment, j'adorais ça. J'avais tout prévu. J'allais leur raconter ça au flashback, un samedi soir, entre les lacs du Connemara et Madonna.
Paranormal ! Brigitte !
L'idée, ce serait d'aller manger après.
C'est la voix de Fanny. Et attention, spoiler, témoin à mon mariage.
Est-ce que d'abord, tu peux me re-raconter cette fameuse soirée où vous m'avez enfermée ?
À ce moment-là, on essayait de trouver un moyen de t'ouvrir les yeux sur la réalité. Et on n'a pas choisi la manière la plus subtile, il faut bien dire ce qui est. Et donc un soir, on était chez moi à Lille, et on a sans doute pas mal picolé, et du coup on était un peu jusqu'au boutiste. Donc on s'est dit, il faut qu'on la force à se rendre compte qu'elle pourrait être attirée par une fille en particulier, et la fille en question étant présente, peut-être que ça serait l'occasion. Et donc on était plus que 4, et on a fermé de l'intérieur la porte de mon appart, et on t'a dit que tu n'en sortirais pas tant que, je sais même pas quoi, tant que t'avais pas avoué, entre guillemets, c'était tant que t'avais pas dit oui, j'aime les filles, ou oui, je veux bien sortir avec elles, ou oui, je sais pas.
Arrête de te mentir, embrasse-la cette meuf. Mais elle a une meuf. Regarde, elle arrête pas de te mater. Ça ferait quoi d'embrasser une meuf? Ça a pas l'air très compliqué. Qu'est-ce que vont penser mes parents? Mais on s'en fout, ils vont me virer. T'es lesbienne. Comment les gens vont me regarder? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi putain? Embrasse-la,
stop.
T'es stop. 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 Ok, t'as gagné. Vous avez tous gagné. Je vais essayer. Je vais l'embrasser. Enfin, si elle veut bien. Elle a bien voulu. Elle a mis ses mains sur mes yeux. Et elle a caressé mes lèvres. Putain, j'ai couché. Cher journal, je suis contente d'essayer. Au moins, je sais ce que signifie être avec une fille.
Coucher avec une meuf.
Je crois qu'à terme, je préfère être avec un garçon. Je trouve ça plus simple, dans l'absolu. Je pensais que ce serait plus différent. Ça y est, c'est ce truc qui donne des fourmis dans le bas-ventre. Je me sens fragile, pendue à elle. 3 jours sans ses lèvres, je sors et je n'en peux plus.
Avec une fille.
J'aime une fille.
Waouh.
J'aime une fille. J'ai 23 ans et il faut que ça sorte de moi. Il faut que je le dise.
J'étais en train de repasser et tu es donc venue dans la chambre en bas où je repasse et tu... Alors, je ne sais plus précisément ta phrase quand même, mais tu m'as dit quelque chose du genre « j'ai quelque chose à dire » quoi. Et là, c'est là que tu m'as dit que tu aimais une autre... Alors, je ne sais plus si c'est fille ou femme, peut-être fille. Et en fait, ce qui m'a le plus frappé, c'est que tout de suite tu t'es mise à pleurer et je t'ai demandé, je suis allée vers toi, j'ai dit mais pourquoi tu pleures, et tu m'as dit que tu avais peur que je te rejette quoi. Et c'est vrai que là je t'ai dit que c'est, on va se mettre à pleurer toutes les deux. Donc évidemment, et là en fait ta réaction m'a ce que tu dis, ça m'a surprise, parce que pour moi c'était une évidence qu'aucun de mes enfants, je peux le rejeter. Je ne sais même pas ce qui pourrait être possible que mes enfants fassent pour que je les rejette. Donc, je me demandais même comment c'est possible que tu aies pu penser ça.
Tu te rappelles que, juste avant, il y avait une conversation à table et j'avais l'impression que tu m'avais lancé une perche. Est-ce que tu te rappelles de...
Alors,
ça?
Je me souviens que tu m'avais dit ça, mais je ne sais plus quelle était la conversation, par contre.
Est-ce que moi, je me souviens d'une conversation où, je ne sais pas pourquoi, d'un coup, tu dis... De toute façon, il y a des homosexuels dans chaque famille. Et j'ai dû faire une tête un peu bizarre. Et tu dis, tu regardes papa et tu dis, oh bah regarde la tête de papa, ça lui ferait bizarre et tout. Et moi, j'ai dû rougir parce que je me suis dit, c'est pas possible que t'avais dû choper une conversation. C'était pas possible
non,
que tu
non,
me
non,
dises ça.
Franchement, je sais pas du tout, me souviens plus du tout pourquoi. Hein, toujours pareil, on se met à parler, tu me connais, on enchaîne, et souvent une conversation nous mène quand même assez loin. Donc je sais plus du tout de quoi on parlait, honnêtement. Hein, est-ce qu'on a parlé de quelqu'un d'autre, d'une autre famille? Je sais pas, je me souviens plus. Mais je me souviens qu'après coup, tu m'as dit que tu pensais que j'avais lancé une perche, mais en fait, pas du tout, quoi. Hein.
Cher journal, d'un coup. Cette impression d'être libre, de ne plus avoir à mentir. Après, je vous arrête tout de suite. Je ne me sens pas lesbienne. D'ailleurs, je déteste ce mot. C'est moche, non ?
Lesbienne, lesbienne, lesbienne.
D'ailleurs, lesbienne, je pense que j'ai été butchophobe.
Lesbienne, lesbienne,
lesbienne. Butchophobe. Ne pas aimer les lesbiennes qui s'habillent comme des garçons, qui ont les cheveux courts et des tatouages. Trouver qu'elles jouent tout le temps au baby-foot et au handball. Trouver qu'elles font tout le temps la gueule et qu'elles desservent la cause.
J'aimais bien faire l'amour avec ma copine pendant l'orage. C'est terminé. Elle était un peu trop fêlée, moi trop fragile, trop angoissée. Elle trouvait que j'écoutais des groupes miteux. Ça va, les têtes raides, c'est joli, non ? Elle voulait que je signe un contrat qui stipulait que nous n'étions pas un couple, que nous ne le serions jamais. Même si on se voyait tous les soirs. Et je l'ai signé, ce contrat. C'est terminé. Maintenant que mon esprit se libère, les vraies questions. Est-ce que je suis vraiment homo ? Ou est-ce que je suis juste tombée sous le charme d'une fille, d'une seule ? Je me suis longtemps posé la question. Pendant des années, j'ai cru que c'était seulement une fille, que bien sûr que non, je n'étais pas homo. Bon, en l'occurrence, je ne le sais pas encore à ce moment-là, mais il n'y a pas eu d'autre homme depuis. Le dernier, c'était un 15 août, il y a 8 ans, et chaque été qui a suivi, je fêtais une année de plus sans pénis. Il y en a bien eu quelques-uns qui ont tenté. Un mec, en soirée, m'a proposé de m'emmener au 7e ciel. Je n'étais homo que parce que je n'avais pas encore couché avec lui. Sérieusement, pire tentative d'approche au monde. Avec aussi le...
Mon ex est lesbienne, t'inquiète.
Mais je m'inquiète pas. Enfin, un peu, mais c'est pas le problème. Ma cousine est lesbienne, ma voisine est lesbienne, mon chien est lesbienne, on s'en fout. Est-ce que je vous dis combien d'hétéros je côtoie ? Je me disais, après cette expérience avec une femme, que tout allait rentrer dans l'ordre. J'allais reprendre le cours de ma vie. Assez classique. Un mec, un chat. Sauf que 3 mois plus tard, l'homosexualité m'a rattrapée. J'étais dans un train, en vacances. Je lisais du Chuck Palahniuk. Et au détour d'un paragraphe, le mot suicide m'a frappé. Il est entré en moi, s'est infiltré dans toutes mes pensées, comme une alarme lancinante qui ne s'arrêtait jamais. Ça a duré 6 mois, jour pour jour. C'était pas la première fois. Avant, pendant plusieurs mois, j'avais été obsédée par mon propre prénom. Élodie, 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 Élodie. La même voix intérieure, le même conflit, les mêmes maux de ventre à m'en faire vomir. Mais là, le mot suicide, c'était plus fort. À chaque fois que j'y pense, j'ai les larmes aux yeux. Comment j'ai pu aller aussi loin dans la souffrance pour me parler à moi-même ? Pourquoi penser à ce mot qu'encore aujourd'hui j'ai du mal à prononcer alors même que je n'avais pas envie de me tuer ? J'ai mis des mois et des mois à comprendre. J'ai pris 2 kilos par mois passés à comprendre. Un jour, dans la rue, je me le suis promis. Si tu te sors de cette merde, si un jour ton cerveau te laisse tranquille, tu ne te plaindras plus jamais. C'est quand même dur de ne jamais se plaindre. Et pourtant, ça s'est arrêté. 6 mois. C'est long. 6 mois. Nous sommes le 8 février 2011. C'est un des plus beaux jours de ma vie. Je suis en terrasse, avec des amis. Et d'un coup, l'une d'elles me fait remarquer que peut-être j'essaie de me dire à moi-même, depuis tous ces mois, qu'il faut que je fasse le deuil de mon hétérosexualité. Que je fasse le deuil de ce que j'attendais de moi, en robe blanche, avec un mec super qui serait un père formidable. De ce que mes parents attendaient de moi.
En toute honnêteté, je pense que très vite, j'ai pensé à le potentiel petit enfant. Et à ce moment-là, je me suis dit que ça allait être très difficile. Tu vois, tu as une fille, tu t'imagines, allez, qu'elle va ramener un mec, et puis qu'il y aura des petits-enfants. Enfin, le schéma bien classique, quoi. Et en fait... Subitement, là, comme ça, mais vraiment, boum, l'espace de quelques... Enfin, je vais pas dire secondes, parce que c'était pas juste à ce moment-là, mais tu te dis que tout ce que t'as imaginé, tu peux faire une croix dessus, quoi. Donc ça, c'est un peu dur, quand même, malgré tout, à vivre en tant que parent.
En fait, je ne voulais pas me suicider. Je devais tuer mes désirs d'hétérosexualité. Et... D'un coup, le mot suicide a glissé de mon corps. Il a quitté mes jambes, mon ventre, mes bras, s'est envolé pour ne jamais revenir, comme si mon corps s'était lavé. Et soudain, je me suis sentie si légère. J'étais la même personne. J'avais la même tête, les mêmes yeux, les mêmes cheveux fous et incoiffables. Et pourtant, d'un coup, tout était différent. Le 9, je n'ai jamais autant fait les magasins. Le 10, j'ai porté une robe pour la première fois depuis 20 ans.
T'avais besoin de t'accepter pleinement, quoi, et puis de, je pense, trouver ta propre manière d'exprimer ton homosexualité. Je pense que c'est ça. Justement, enfin, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, ce que tu n'arrivais pas à accepter, c'était l'image de la lesbienne donnée par la société. Oui, à partir du moment où tu as eu cette espèce de déclic, tu t'es mis vraiment d'un coup à t'habiller hyper féminin. Enfin.
Et d'un coup, c'est comme si je découvrais
le cul, la jouissance.
C'est pas encore la fin du chemin. Je me suis posé tellement de questions. Comment faire confiance quand on s'est menti pendant des années? Comment se faire confiance quand on s'est menti? Comment faire pour aimer sans douter? Comment lutter contre les crises d'angoisse qui ont envenimé ma deuxième relation? Comment on fait pour encaisser ça?
On voit de plus en plus de gays à la télé, donc les gens se posent des questions sur eux-mêmes. Ça se propage en fait, c'est comme une maladie qui se propage.
Je ne blâme pas, mais ça n'est pas naturel.
Il n'est pas possible que demain un enfant, sur son acte de naissance, ait marqué Caroline, née de Jean-Pierre et Nicolas.
Lesbienne, gay, bisexuelle, transsexuelle, intersexuelle, vous avez oublié la zoophilie, c'est ça qui gêne.
Ce sont eux qui m'ont donné envie d'écrire. Les Copé, Boutin, Barjot, Dassault, La Manif pour tous. Parce que se réveiller, chaque matin, avec des voix qui te disent que tu es, au choix, une malade mentale, une zoophile en puissance, une mal baisée, une sous-merde. Il y a de quoi se tirer une balle. Je me souviens, à ce moment-là, plusieurs fois je me suis dit « Et si je les avais entendus il y a encore un an ou deux, comment je l'aurais vécu ?» Et je me suis dit « Un jour, Hello, un jour, tu te serviras de ton micro. » J'ai pleuré devant Taubira.
Chacune, chacun d'entre nous est singulier et c'est la force de la société.
Et je suis tombée amoureuse une troisième fois. Elle a les yeux tachetés, un blouson en cuir marron et elle marche en roulant des épaules. J'ai envie qu'elle me dévore. Nous nous embrassons le 17 juin 2014. Un an plus tard, je parade en robe blanche, la bague au doigt, et je danse, pour mon mariage, sur les têtes raides. Il y a une autre histoire qui m'occupe l'esprit. Il y est question d'espoir, de donneur semi-anonyme, de Thalys, de week-end à Bruges, de paillettes de sperme, de deux prénoms féminins, dans la case « Maman » d'un futur livret de famille. Clémence et Élodie. Il y aura du son dans ces biberons.
Vous êtes toujours sur l'antenne de Canal Sud dans Ouvrez les ailes. Nous voulons d'écouter Coming In et on retrouve au téléphone son auteur, Élodie Font. Ce documentaire est un véritable voyage émotionnel. L'émotion, c'est important pour vous dans la vie ?
Ça fait partie de ma personnalité, c'est sûr. Ouais. Je suis quelqu'un d'assez émotive, en tout cas sensible, on va dire.
De la tristesse, sans tomber dans le pathos, vous racontez votre parcours aussi avec humour et dérision.
J'avais pas envie, en fait, d'un documentaire larmoyant. J'avais pas envie qu'on se dise « Oh la pauvre, c'est vraiment très difficile d'être homo ». C'était pas du tout l'esprit, l'idée... C'était de raconter un chemin, et évidemment que sur ce chemin-là, il y a des moments qui sont douloureux, mais il y a aussi plein de moments qui sont drôles, qui étaient drôles sur le coup, et qui sont encore plus des années après, avec le recul, où je me dis non mais vraiment, ça s'est vraiment passé comme ça. Et du coup, j'avais envie d'un documentaire qui soit à la fois sensible, mais qui soit aussi drôle, enfin drôle, qui soit en tout cas... plein d'humour, ouais, j'avais envie de ça, en tout cas.
Combien de temps cela vous a pris pour réaliser Coming In ?
Ça m'a pris pas mal de temps. Ça m'a pris déjà le temps de me dire vraiment tu vas le faire. C'est-à-dire qu'entre le moment, je vous disais ça tout à l'heure, juste avant la diffusion, je vous disais que c'était celui qui dirige Arte Radio qui m'avait un peu poussé à l'écrire. Et entre le moment où il m'a dit, bah, vas-y, Élodie, écris-nous quelque chose là-dessus, et le moment où j'ai vraiment écrit, déjà, je pense qu'il s'est passé 3 mois. Et c'était pas 3 mois à rien faire, c'était 3 mois à maturer un peu l'idée. C'est-à-dire, j'ai pris quand même pas mal de temps pour relire mes journaux intimes. Je notais toujours plein de trucs dans mes notes, là, vous savez, sur mon iPhone. Je notais tout ce qui venait à l'esprit, tout ce qui revenait. J'ai demandé à plein de copines aussi, qu'elles se rappelaient de cette période-là, est-ce qu'elles avaient des souvenirs que j'avais oubliés, et ça a mis 3 mois. Et ensuite, le moment de l'écriture en lui-même a été assez court, parce que je pense que j'y avais déjà tellement pensé que ça n'a pas pris tant de temps que ça, et j'ai mis une semaine à l'écrire, et puis après, il a fallu 6 jours de montage et de réalisation.
Ce documentaire est paru au mois de mai. Aujourd'hui, il a fait le buzz. Comment étaient les retours ?
Le buzz, vous êtes sympa quand même. Je ne sais pas si on peut parler de buzz. Je pense que déjà, il y a eu le premier cercle des gens qui peuvent potentiellement écouter Arte Radio. Et ce qui est chouette, c'est qu'il a un petit peu dépassé ce cercle-là. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que quand je l'ai écrit, ce documentaire, je me suis dit... Mais pourquoi t'écris ça, toi ? C'est quoi ta légitimité à toi d'écrire sur le cheminement qui mène vers l'acceptation de son homosexualité ? Bon, ok, je suis homo, mais sinon j'ai aucune légitimité à le faire. Et puis, j'avais pas une histoire si compliquée que ça. Donc je me disais, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Et en l'écrivant, je me suis dit, si jamais ça peut... comment dire ? Si jamais ça peut faire du bien à une seule personne... ce sera déjà pas mal. Si jamais ça peut aller dans les oreilles de quelqu'un qui a aujourd'hui 20 ans, 25 ans, 40 ans, même 50, j'en sais rien, mais qui est dans la même situation que celle dans laquelle j'étais il y a 10 ans et qui a beaucoup de mal avec l'idée de s'accepter, je me suis dit, je vais avoir réussi quelque chose. Déjà, si une personne peut entendre ce documentaire. Et en fait, j'ai eu pas mal de réactions, comme vous le disiez. J'ai eu... tellement de réactions que au début j'étais un peu soufflée quand même, et la plupart, je dirais, ce sont des femmes qui ont entre 22 et 40 ans et qui sont homo. La plupart des réactions que j'ai eues, je dirais que pour faire une moyenne, ce sont des femmes homo, et la plupart me disent que elles disent merci souvent, elles disent qu'elles n'avaient jamais entendu quelque chose qui les racontait autant et que ça avait pu mettre des mots sur des pensées qu'elles ont, qu'elles avaient. Et puis il y en a plusieurs qui m'ont dit aussi qu'elles l'avaient fait écouter à leur mère. J'ai trouvé ça assez joli.
L'intime, la révélation de soi, c'est le besoin d'une génération aujourd'hui pour affirmer ce que l'on est ?
Oui, je pense que... J'étais un peu partagée sur cette question parce que vraiment, je me suis beaucoup posé la question de la légitimité. Et puis en fait, vu les réactions, je dirais aujourd'hui que oui, c'est important de le dire, oui, c'est important d'en parler. Je le dis à la fin du documentaire, je dis qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose avec ton micro. Et je me suis dit ça au moment de la manif pour tous. Et c'est vrai que je pense que quand on a la chance de pouvoir avoir un micro, de pouvoir exprimer des choses, de pouvoir être entendu en fait, bah peut-être qu'il faut saisir cette chance-là et pouvoir dire des choses qui vont être entendues et j'espère qu'ils peuvent avoir une résonance en fait. Peut-être que des gens qui viennent de l'écouter sur votre antenne, je sais pas, peut-être que ça a eu une résonance et merci d'ailleurs pour ça de permettre à ce documentaire de voyager encore. Ça, c'est hyper touchant pour moi de l'imaginer voyager d'oreille en oreille. J'espère qu'il va continuer à voyager longtemps.
Un voyage d'oreille en oreille et bientôt avec les yeux d'image en mots.
Oui, un projet de roman graphique. Quand il est sorti, j'ai eu des propositions d'éditeurs pour en faire un livre. Mais sur le coup, je ne voyais pas exactement quoi raconter. Je me dis que si un jour j'écris un livre, ce sera plutôt sur la suite, sur potentiellement l'homoparentalité et toutes les questions que ça peut soulever. Mais ça, j'écrirai ça quand je serai en situation de l'écrire. Mais écrire un livre sur Coming In, j'avais l'impression d'avoir déjà dit beaucoup. Et je voyais pas trop quoi rajouter dans les mots. Et en fait, en discutant avec une copine et avec l'équipe d'Arte, on s'est dit que le mieux, ce serait d'en faire un roman graphique. Et donc, c'est en préparation. Je sais pas exactement quand ça pourra sortir, mais peut-être courant 2018, le temps que ça s'écrive, le temps que ça sorte. Je pense courant 2018, ouais.
Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview et merci pour votre documentaire qui, quelle que soit notre quête en tant que femme, nous a profondément bouleversés.
Merci beaucoup à vous pour l'invitation et puis pour la diffusion. Je suis très touchée que ça puisse être diffusé dans le sud de la France.
Si vous voulez écouter ou entendre Élodie Font dans l'émission Mycos the Night sur Arte Radio ou avec Claire Fégr et Jean-Jacques Le Robot Relou, elle mélange infos culturelles et blagues pourries tous les 15 jours. Alors la dernière de Mycos the Night s'intitule La Travaillistanie. Je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente soirée sur les ondes de Canal Sud et on se quitte avec Ginette.
Funambule, beau qu'il est, marchant sur son fil, le Charlie Diesel Albatros. Il est mort à marcher sur la terre, mais c'est pas fini, on va continuer à voler dans les airs et les supermarchés pour nous donner l'air de ne pas rien faire et pour manger. On va s'aimer encore là pendant des années. Moi j'étais là, moi, monsieur. Et puis il y avait Ginette qui valse sans guinguette, qui a toujours un verre d'avance des fois qu'on ferme la dernière porte. C'est pour rêver, faire la fête. Il y a les musiciens sur les tréteaux. Tôt ou tard, ça va s'écrouler, mais leur histoire, on s'en fout. On s'en fout. Y'a Ginette qui
continue à tourner. Allez, Ginette. Allez, la belle. Allez, Ginette. Ça monte pas, et nous on crève à rester là.